Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le mardi 19 octobre, si je m'abuse, hein. Si je me suis trompée, vous vérifierez. Je suis Elise Bock, vous écoutez Flash sur le monde pour Radio Silence. Bien, le traître et le néant, ça, je ne pouvais pas laisser ça passer. Je vais dire, ça m'a claqué dessus comme une gifle. C'est le livre qui sort sur Emmanuel Macron. Je suis tombée dessus, non pas par Emmanuel Macron, bien sûr, ni même par le traître et le néant directement. Le livre, déjà sorti, je ne sais pas où annoncer. Mais en tout cas, par la phrase de François Hollande qui dit que Hollande n'est Hollande, pardon, que Macron n'est rien. Oh, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça d'abord parce qu'il y a un effet boomerang qui me plaît beaucoup. Vous savez, Macron, c'est celui qui avait dit que à la gare, on trouve de tout, des gens qui ne sont rien et des gens qui sont probablement quelque chose, je sais pas quoi, oui, les VIP, et bon, de toute façon, il faut de tout pour faire un monde, je ne sais pas s'il découvre cela, mais ce qu'il voulait surtout indexer, c'est les gens qui ne sont rien, c'était des gens comme moi. À ce moment-là, je voyageais beaucoup entre la fameuse gare depuis Saint-Exupéry, où j'ai des souvenirs très désagréables de cet aéroport, de là jusqu'à Meaux. La gare de Meaux, par contre, à Meaux, j'ai bon, une ville pour le moment neutre où je vais probablement transiter. Quand je dis transiter, je ne sais pas, la région parisienne, je la trouve un peu morte. La région parisienne, enfin le pourtour, il faut certainement trouver, pas l'Île-de-France, bien sûr, il faut certainement trouver une périphérie intéressante comme Épinay, peut-être sur Seine, on verra. Et je le dis à bon escient. Le livre est déjà le titre du livre, Le traître et le néant. C'est formidable en termes de symbolique, en termes de poésie, en termes, pour nous autres qui parlons de sémiologie, en termes de, comment on dit ça, d'archétype, en termes de. C'est hier, hein, je me suis enregistrée dans le groupe Facebook de Clint Eastwood, et son bon, la butte et le truand, qui sont absolument des archétypes indépassable. On ne s'en lasse pas. Je n'ai pas regardé le film de nouveau, mais moi, quand on dit le bon, la brute, Clint Eastwood, je me dis qu'il a explosé avec le bon, la brute et le truand. Le traître et le néant. En fait, l'histoire de Macron, c'est le traître qui accouche du néant. Et donc François Hollande, on peut l'accuser de tout, mais le monsieur, c'est un peu comme Mélenchon, c'est des hommes politiques très cultivés, très solides intellectuellement, qui ont non seulement une culture de l'histoire de France, qui est d'ailleurs toute politique, mais ils ont quand même une maîtrise des faits culturels et intellectuels qui dépassent un peu, pas un peu, de très loin, qui dépassaient déjà leur génération en termes. C'est des hommes très cultivés. Vous savez, François Hollande, lui, il est pratiquement incollable, hein, en matière d'histoire de France. Vous lui poserez des questions. Tout le monde va faire ça. Peut-être pas Jean-Luc Mélenchon, mais vraiment, les deux-là, il faut le reconnaître, cette dimension qui fait des grands hommes politiques, qui fait des hommes comme Général de Gaulle. On ne peut pas arriver en tant qu'amnésique des gens sans mémoire ou qui n'ont fait que, vous savez, la finance et puis l'ex-ENA, là, et qui arrivent et qui sont des hommes politiques. Non, on est plus que ça pour être homme politique. Et c'est vrai que lorsqu'il dit que Macron, c'est le néant, c'est vraiment le néant. C'est le néant d'abord en termes. Bon, la traîtrise, ça, c'est peut-être pas nouveau, puisqu'il lui dit d'ailleurs que tu m'as trahi, tu seras trahi par la suite. Ce sont les révélations du livre. La question de l'amnésie et de la culture politique de l'homme politique ou du présidentiable, elle est fondamentale. Alors, beaucoup disent, parce que c'est cette culture-là qui lui donne, qui lui confère la dimension politique. Vous ne pouvez pas, comme aujourd'hui, on vient faire les choses sans la culture. Et sans l'expérience. Et quand on dit l'expérience, il y a aussi le fait que votre expérience politique, en politique, doit faire toujours, comment j'allais dire, doit être aussi un reflet ou un écho de ce qui s'est passé dans le passé et qui augure de ce qui se passera dans l'avenir. Pas parce que ça va se passer de la même façon, mais parce que ça vous met en capacité de prévoir, en capacité d'avoir une vision, parce que vous avez des références derrière en termes de pratique, en termes de savoir-faire et en termes de personnalité qui vous parle. C'est un peu comme vos pères, vous voyez, dans votre esprit. Les Américains parlent toujours de pères fondateurs. Et des valeurs sans vraiment s'y référer. Le problème de l'Afrique, il est simple, hein, il n'y a pas eu de père fondateur, ou plutôt il y en a eu, mais qui ont laissé un message qui a été très vite effacé par les puissances coloniales, en sorte que les Africains, ils naviguent à vue. Et c'est là l'un des facteurs psychologiques forts qui ralentit complètement les Africains, parce qu'ils sont en errance, ils sont dans l'errance, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de chemin, ça n'a pas été tracé, et ce n'est pas ceux d'aujourd'hui qui peuvent tracer ce chemin-là, absolument non. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de cette génération d'hommes politiques nouveau monde. Vous savez, ce nouveau monde, il se construit depuis les années pratiquement après-guerre, de façon invisible après Deuxième Guerre mondiale, de façon invisible, mais qui est allée de plus en plus crescendo, jusqu'au moment où aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Donc l'homme politique aujourd'hui, c'est vrai, on va dire, il apparaît comme un petit voyou, un brigand. Et effectivement, le néant, le traître et le néant est fondamental parce que ici en Afrique, on dirait la même chose. Pour des effets différents. C'est tous des dirigeants qui ont trahi, qui sont les traîtres à leur nation et qui, en même temps, forcément, accouchent du néant. Ils sont des traîtres par rapport à la nation, bon, on va dire c'est pour la France, mais ici en Afrique, ils sont des traîtres, pas par rapport à une mémoire, il n'y en a pas. On va donc dire qu'ils sont peut-être des traîtres au néant déjà, d'une conscience. Post-indépendantiste qui a été complètement effacé de la mémoire. On ne parle jamais, on ne fête jamais ces héros qui sont morts. Vous voyez, il y a un trou. Et en traînant ce trou-là, on traîne le rien, le néant, en termes politiques. Hein, parce que Macron, lui, disait ça en termes prosaïques, comme les nouveaux chefs d'État, enfin, chefs d'État, les nouveaux présidents aujourd'hui savent le faire, parce qu'ils n'ont pas l'épaisseur historique avec eux, en eux, qui leur permet d'être décalés d'une forme de vulgarité, de préoccupation. Et effectivement, c'est ça le problème, le mal dont souffre aujourd'hui le monde entier. C'est le mal d'un leadership il y a un professeur Arnaud Benedetti qui parle de la décomposition du politique, qui a décomposé le politique en termes, en tant que, comment il dit lui là, en tant que volonté. Voilà, la politique déjà c'est une volonté, c'est très important. En tant que pensée structurée, ça aussi c'est très important. Et en tant que vision solide et déterminée, ça ce sont les mots du professeur associé à la Sorbonne, Arnaud Benedetti, par ailleurs directeur de publication, j'ai vu d'une revue, et j'ai vu cet article-là dans Atlantico. Atlantico, on n'est pas d'habitude très, hein, mais bon. Donc ce sont des hommes d'après lui, circonstancielle, on n'a plus les hommes providentiels. Oui, parce que l'homme providentiel, vous voyez toujours, la politique avait quelque chose de sacralisé. On l'a désacralisé. Si on la désacralise, bien sûr qu'il n'y a plus d'homme providentiel, parce qu'un homme providentiel, il a une autre dimension qui est métaphysique, qui est transcendantale. C'est pratiquement un philosophe déjà, vous voyez, quelqu'un qui a dépassé beaucoup de choses, qui a dépassé la vulgarité du match vu, qui a dépassé une forme d'embrassade comme ça de la politique du moment ou des valeurs du moment. Ben, si c'est la mode gay, ben allons-y, on y gaiement. Si c'est la mode cougar, allons-y cougardement. Si c'est... Bon, vous voyez un peu ce genre de choses qui font qu'on ne peut pas être à la fois cela et porter un projet pour la nation. Non, on porte un petit projet pour... les besoins sexuels et autres que vous voudrez. Ce sont des symboles très très forts. Alors, c'est vrai que là-dessus, si on est resté dans la logique, puisqu'on peut s'y après, une fois qu'on a donné le cadre, vous savez, la politique, c'est la volonté, d'abord le monde. Il y a un philosophe qui s'appelle Schopenhauer qui a écrit sur le monde comme volonté et le monde comme représentation. Quand vous avez la volonté, vous avez déjà la vision dans la représentation. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce monde? Et ça, une fois que vous l'avez défini, vous ne devez pas en dévier au gré des circonstances. Maintenant, on va vous dire, oui, tout cela est bien beau, mais il nous manque quelque chose. C'est que dans cette façon comme ça de poursuivre sa vision, on en oublie deux choses qui sont venues complètement avec le XXe siècle défaire certaines choses, c'est-à-dire la vitesse des flux de l'information, ces grandes autoroutes qui amènent de tout et de rien, et un autre élément qui est l'événement lui-même, c'est-à-dire que dans les catastrophes naturelles qui arrivent aujourd'hui, qui... Mais tout cela est lié parce que l'événement aussi arrive. Souvent, c'est vrai, il n'est pas toujours lié à la gouvernance, mais il est aussi lié au fait que ben, ça peut être une catastrophe, tout simplement, un train a déraillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis là aussi, c'est comme le général de Gaulle disait, on ne réfléchit plus lorsque l'événement arrive parce qu'on a déjà dans sa vision, si on a fait ses études politiques qui vont au-delà de l'ENA et tout ça, on a déjà une vision de comment traiter l'événement dont il arrive. Et ce n'est pas forcément le travail du président et une partie du président qui va venir assurer parce que le président, c'est un... un bon père de famille. On semble découvrir ce terme dans l'économie, mais il n'y a pas que l'économie qui va parler de bon père de famille. Le pays doit être géré comme un bon père de famille. Et ça s'apprend aussi à aimer son peuple, ça s'apprend à aimer la nation, ça s'apprend à aimer la patrie, ça s'apprend à aimer la liberté, les valeurs qui ont été laissées par des gens qui ont perdu des vies et des vies. Ça s'apprend, tout ça s'apprend. À gérer un pays, ça s'apprend. C'est pas un truc où on arrive et puis sur le tas, on vous nomme parce que vous êtes gay. Pour la vitesse, on va vous dire, mais le problème de la vitesse, c'est que ça apporte des événements là aussi que l'opinion publique va retenir comme étant essentiels et que le président doit prendre en considération, enfin, ou le gouvernement, au risque de paraître comme étant déconnecté de la réalité, déconnecté des préoccupations populaires et l'autisme. Le risque d'autisme de tous les gouvernements est là, dans le décalage qu'il peut y avoir entre la vision qu'ils ont établie de la société et ce que l'opinion publique veut qu'on fasse de façon prioritaire. Alors, c'est ça tout l'art de gouverner. C'est ça l'art de gouverner. Comment on gouverne en tenant compte de ces deux impératifs, c'est-à-dire, je suis venu en tant que chef d'État, j'ai ce projet à mettre en œuvre parce que je voudrais que la nation ressemble à ceci et ceci. Et quand je le veux, c'est pas seulement ma volonté à moi, c'est une volonté supérieure, tenant compte des éléments qu'on a déjà dit, notre tradition, notre projet, ce que nous avons comme idée de l'homme aussi, de l'humanité dans le monde, de la condition humaine, etc., etc., des relations entre les peuples. Comment je gère ça en tant que chef d'État, tout en tenant compte du fait que, en avançant, il y aura des circonstances positives, négatives, il y aura des distractions. C'est à moi de régler cela en tant que chef de l'État, mais en même temps, c'est vrai, il y a une gageure, parce que l'opinion publique aussi a peut-être ses priorités, mais ces priorités-là, lorsqu'elles sont en décalage avec ce que le gouvernement fait, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci, et ce souci-là, il appartient à des hommes. Cultiver des hommes responsables, des hommes humanistes, de le gérer. En gros, avant, ce n'était pas difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, Macron, moi, personnellement, je ne l'apprends pas aujourd'hui. Puis avec, je l'avais dit, hein, je l'ai déjà dit dans un flash sur Le Monde, que après Hollande, ce qu'on a, c'est des bouchers. C'est des bouchers parce qu'avant, il y avait une façon de faire de la politique. C'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est pas possible. Il y avait un respect quand même. La politique, c'est pas une boucherie. La politique, c'est comme la guerre. Il y avait avant, il y avait des codes. Aujourd'hui, c'est une forme de boucherie. C'est du n'importe quoi, comme peut-être la guerre aussi l'est devenue. Et oui. Moi, je suis d'accord. Emmanuel Macron, c'est le néant. Et c'est tellement le néant qu'il est sorti du néant. Tout fait par la finance, tout fait par on ne sait pas quel réseau, sous-train, personne ne savait d'où il venait. Ça, c'est le néant politique. Le néant politique, il n'est rien, politiquement parlant. Bon, lui-même, en tant qu'individu, c'est un être humain, bien sûr, mais politiquement parlant, il n'est absolument et strictement rien, sauf peut-être ce qu'on peut dire très clairement, c'est un traître. Dans la montagne, devait accoucher d'une souris, et moi je pense qu'il faudrait qu'il ait un culot extraordinaire, parce que par ailleurs on demande la question qui est posée par Atlantico, est-ce que c'est un escroc là-bas? Est-ce que lui c'est un grand escroc, un grand manipulateur, ou alors un représentant de toute la confusion française? Parce que les Français aussi, en allant élire Monsieur Macron la dernière fois, tout le monde a hurlé. Bon, peut-être qu'il voulait pas Fillon, certainement pas, peut-être qu'il n'avait pas le choix. Mais vraiment, alors, il fallait déjà réfléchir au premier tour, parce que c'est ça le problème du vote français. Il y a deux tours, il faut bien réfléchir lorsque vous faites les éliminations au premier tour, pour pas que vous soyez coincé et obligé, par exemple, de voter ce que vous ne vouliez pas au second tour. Voilà. Et le vote aussi n'est pas intelligent. Et on risque d'avoir cela avec. Ces présidentiables, enfin, qui sont tous sortis là, qui aussi cela disputent le statut de président à Monsieur Mélenchon. Pardon, pardon, beaucoup d'inculture, sinon qu'une culture vraiment de surface. Je ne parle pas de Monsieur Zemmour, hein. Monsieur Zemmour, lui, il a ça pour lui. On risque d'avoir. Donc, dans cette banalisation des figures qui font que maintenant c'est le premier, ouais, on revient au bon, la brute, le truand, le premier truand qui peut passer. Il faut que, pour une fois, et ça, c'est des choses aussi qui sont perdues par le nouveau monde, et c'est voulu pour qu'on élise des saltimbanques, qu'il faut bien distraire le peuple, faire en sorte que les gens n'aillent plus voter, et donc augmente, vous voyez, le taux d'abstention. Si les gens de la banlieue, qui pour une fois ont un candidat, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, s'ils vont voter, Monsieur Mélenchon passera tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de la jouer Macron. Très bien, arriviste, entre escrocs et confus, et ils resteront chez eux, propres manipulateurs de leur propre conscience et de leur propre stupidité, à se lamenter la prochaine fois et à voter, soit à ne voter pour personne et n'importe qui passera, Voilà, c'est ce qui va arriver. Et ils seront toujours empêtrés dans leurs propres conditions humaines dont ils ne sortent jamais. Et je parle en particulier ici des Noirs. Je parle des Noirs parce qu'en ce moment, je suis vraiment focalisée là-dessus. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard puisque je suis en Afrique. Donc forcément, ça me saute aux yeux. Et ce que j'avais vu aussi aux États-Unis me saute aux yeux. Je parle de ça. Vous savez, le général Colin Powell est décédé. Bon, pour le coup d'une arme de destruction massive, le Covid. Il en avait parlé de façon, ah, vous savez, l'ironie de la vie. Hein. Et comment il en décède? Il a été vacciné. Il décède donc des complications du vaccin du Covid. Bon, c'est ce que sa famille nous dit. Et qui ne sont, qui sont toujours tués et qui sont là et qui tuent les gens. Alors, il y a un joueur. Black, je crois que son histoire date un peu, peut-être au moins de 6 mois, 1 an, qui jouait dans Atlanta, les Hawks, de basketball, qui donc avait dit qu'il ne se faisait pas vacciner. Moyennant quoi, on lui a dit, si tu te fais pas vacciner, ben, tu joues plus, tu exclus l'équipe. Bah, il est obligé, parce qu'aujourd'hui, c'est le nouveau monde, c'est le chantage. La question de la liberté, il faut réfléchir à ça. Bien sûr, on est venu superposer la question de la, comment on appelle ça, les principes de prévention écologique. Oui, bien sûr, principe politique, mais l'homme politique, le vrai, a toujours ce qui avait le principe de prévention et de précaution, parce que ça fait partie de sa vision. Et aujourd'hui, on se réfugie derrière et on y met tout et un peu tout et rien. Et il a eu, bon, il est obligé de faire le vaccin, il fait le vaccin, et puis il a des complications. Il y a des caillots sanguins, et il a terriblement mal au dos, il ne peut plus jouer. Vous voyez, ça lui crée des problèmes. Et qu'est-ce que son équipe trouve à lui dire pendant qu'il est hospitalisé? On lui dit, oui, ben voilà, c'est un coup de fil, on va annoncer à la presse. Et la presse, je vous ai dit quoi? Les circonstances de distraction. On va dire à la presse que, pour l'opinion publique, bien sûr, on va leur dire que, on va dire à la presse que tu ne peux plus jouer cette saison. Pour toi, la saison, c'est out. On verra l'année prochaine. Mais c'est d'une violence inouïe. Vous m'avez demandé de me vacciner, sinon je ne joue plus. Et maintenant, j'ai des problèmes. Vous ne venez pas. Et en plus, non seulement on le lui dit, on lui interdit en plus d'en parler. Vous voyez? On lui interdit en plus d'en parler. Bah, ça veut dire que. Ça, c'est au-delà de la double contrainte. Vous m'avez obligé à faire le vaccin, sinon je ne joue plus. Et quand je fais le vaccin, j'ai des problèmes. Vous me dites, bon, tu vas plus jouer. Et en plus, tu n'en parles pas. Parce que, alors là, du coup, je ne sais pas, tu es réavis de toutes les équipes des États-Unis, probablement, parce que tu as dévoilé un secret. Mais on est où là? Tu as dévoilé un secret. C'est-à-dire que c'est l'institution, une violence inouïe qui s'abat comme ça sur le pauvre joueur. Et pourquoi ça peut aussi s'abattre sur le pauvre joueur? Mais c'est toujours parce qu'aujourd'hui, on a non seulement un leadership voyou, mais ce leadership a enrôlé, quand je disais aux banlieusards, là, n'allez pas voter n'importe qui. Il a enrôlé ces stars de basketball dans une forme de soumission aveugle et que vous avez, les Noirs, ils sont incapables, ce sont eux qui jouent. Mais les équipes, ils ne peuvent pas acheter un club. Moyennant quoi, ils sont soumis à la loi de ceux qui possèdent les clubs et qui sont souvent des voyous, enfin des financiers, cherchent l'argent, des vendeurs de chair à canon. Hein? Et pourquoi on a eu des Obama? Qui n'ont jamais pu tenir des discours comme ceci, pourquoi ne pas encourager? Parce que quand on a l'injustice sociale, hein, c'est parce qu'on a des mauvais leaderships. Quand l'ENA a été créée, c'est le général de Gaulle qui a créé ça. Et vous avez vu comment ça a favorisé et l'ascension sociale et l'ascension républicaine et créé toute cette classe politique qui est là depuis 68 jusqu'à aujourd'hui et qui s'est enrichie de façon exponentielle. Donc, un dirigeant, c'est très important. Et cette classe, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle fait quoi? Elle refait pas du général de Gaulle. Elle refait du racisme, du colonialisme pur et sauvage, je vais dire, à l'intérieur de la France. Et maintenant, lorsque vous avez un dirigeant comme M. Obama qui n'a pas pu avoir les mots qu'il faut, avoir la pensée de la société américaine, c'est-à-dire encourager les Américains à acheter les clubs. Vous avez ces gangsters-là qui font leur rap et tout, pris par le nouveau monde. Ils ne peuvent pas acheter un club de sport pour, je sais pas, pour gérer eux-mêmes les footballeurs noirs et pour pas qu'on interdise aux joueurs noirs de parler parce qu'ils nous rappellent. Le chantage se multiplie parce que ce sont pas les noirs qui disposent, qui possèdent les clubs, parce qu'il n'y a pas un équilibre des forces entre la condition nègre d'un côté qui est là, qui joue, et puis la condition financière. Bon, ce sont toutes ces choses-là arrivent et découragent les gens. Même le recrutement des joueurs serait pas pareil, la dynamique du jeu serait pas pareille, la concurrence, même tout. Vous savez, avant, il nous manque il nous manque vraiment des gens comme Mohamed Ali, il nous manque Malcolm X, et il nous manque Martin Luther King pour les Noirs aux États-Unis, et dont vous avez vu du coup la conscience noire s'est rétrécie, s'est rabougrie, elle est passée jusqu'à un matérialisme idiot et stupide, hein, parce que tout simplement dénué, il n'y a rien dans ce matérialisme-là qui, s'il n'est pas porté par ce qu'on disait tout à l'heure, par l'histoire, par la mémoire, par un projet pour nous, les humains noirs, vous allez devenir quoi? Vous allez faire quoi? Si cet argent, c'est juste pour acheter des voitures, acheter des bagues, marcher avec les fesses nues et tout ça, ben c'est triste. C'est triste et c'est lamentable. Alors, c'est des questions profondes qui sont posées là lorsqu'on parle du traître et du néant. Parce que le noir est devenu le traître de sa propre, comment je vais dire, de son propre anéantissement. On a l'impression comme ça, visiblement, oui, il y a les célébrités, oui, mais à part ces célébrités, il y a quoi derrière pour le noir? Le noir, enfin, il n'est fait que de ça aujourd'hui, de cette figure archétypique. C'est le traître et c'est le néant. Je l'ai dit la dernière fois et cette fois-ci, c'est vraiment tellement symbolisé et chacun dans son pays interprétera et déroulera cela à sa manière, mais il verra que c'est vrai, c'est les deux archétypes qui gèrent le monde aujourd'hui et c'est lamentable, c'est vraiment désolant. C'est désolant parce que là, pour finir, puisque quand même ce flash sur le monde est un peu dur, c'est la question, vous verrez, puisque nous sommes passés dans la gouvernance des traîtres et des nuls, enfin des amnésiques, vous avez aujourd'hui, après les injustices sociales, vous aurez donc forcément le renversement de valeurs. Pas seulement, non seulement le renversement de valeurs, c'est-à-dire la confusion des valeurs et qui rattrape tout, qui fait que dans le sport, ici au Cameroun, bientôt il y aura ce qu'on appelle la CAN qui va se jouer. Ok, bon, c'est bon courage pour eux. Mais vous voyez que le sport est rattrapé par le politique. Mais jamais, lorsqu'on a commencé les Jeux à Athènes, le sport ne pouvait pas être rattrapé par le politique. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est le même cas avec le joueur d'Atlanta. Le sport, dès que la politique s'en mêle, c'est la magouille qui commence et ce n'est plus le mérite, ce ne sont plus les valeurs sportives ou de l'olympisme qui vont prévaloir. C'était vraiment le mérite simple. Vous avez, non, cette histoire du ballon d'or qui se joue en ce moment, c'est une vraie comédie depuis un certain temps où les ballons d'or, avant. Le ballon d'or se discutait pas. Bon, c'est vrai, les gens qui ont Roger Millard, ils sont arrivés trop tôt en France. Ils ont joué, ils étaient noirs, hein, les pauvres. Hein. Vous étiez noirs, d'office, la politique vous écartait, quel que soit votre talent. Ça n'a pas été très différent par la suite. Aujourd'hui, avant, quand les Pelé jouaient, le Brésil joue plus au foot, parce que avant c'était du sport, le foot. Aujourd'hui, ce n'est plus du foot, c'est de la technique. C'est de la politique, c'est un mélange d'on ne sait pas de quoi, justement, qui vient toujours de ce glissement vers le tout confus et le néant et la traîtrise. Bien sûr, on a très trahi l'idée du sport. On ne se posait pas la question d'avant, qui va être Ballon d'Or? Non, mais c'était le joueur, le meilleur joueur, la saison faisait l'unanimité. Et ça se voyait. Ça se voyait et on discutait pas trop. Mais maintenant, on discute beaucoup. On discute beaucoup parce qu'il y en a qui sont dans les Illuminati, il y en a qui passent voilà, des choses bizarres dans des trafics eux-mêmes connaissent, il y en a qui sont des copains gays, il y en a qui sont des copains de partouze, il y en a qui sont des complices d'ici ou de là, il y en a qui sont, je sais pas, plus blancs que les autres, il y en a qui sont, etc., etc. On regarde plus vraiment le mérite pur, la classe, l'art et tout, ouais, tout ça, ça c'est une déchéance. Là, je sais pas, j'ai vu le mot déréliction, bon. Je sais pas, c'est ce que c'est ce politique a dit, mais la déréliction, ça c'est encore autre chose. Mais disons un peu cela, si c'est l'abandon et la descente comme ça en enfer de tout, oui, pourquoi pas. C'est ça, voyez, on est dans un monde où c'est le néant qui guide, parce que si nous avons oublié l'histoire, si nous avons oublié les fondamentaux qui allait avec, comme l'excellence, comme la justice, comme le mérite, beaucoup d'autres choses, puisque nous les avons évacuées de la question, et si nous avons oublié la responsabilité de la vision et de la volonté de l'homme politique, si nous avons oublié qu'un homme politique, c'est pas le gars qui vient se faire son top modèle devant vous et son show, mais c'est quelqu'un qui a une épaisseur, si vous-même, vous n'êtes pas conscient de tout cela a changé et que vous devez élire quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou peut-être, je sais pas, ailleurs, dans d'autres pays qui en présentera, qui vient vous dire ce qu'il faut faire en termes de. Bon, au moins aujourd'hui, nous devons retrouver les grands équilibres, tous ces équilibres perdus. Et l'homme politique noir qui va arriver, qui ne pourra pas rentrer dans ce type de discours, il vaut rien. Qu'il soit ici en Afrique ou ailleurs aux États-Unis. Et en Afrique, on n'en voit pas le chemin. C'est Orange qui fait la pluie, le beau temps ici. C'est très bien, tant mieux. Moi, l'Afrique, il ne faut plus rien en dire, il faut la regarder. Et ça donne que le Cameroun, on en est au divorce entre ceux qui veulent s'appeler l'Ambazonie et puis les francophones, tout simplement parce que les francophones sont exactement la réplique, en restant sous colonisation française, ils restent la réplique de cet archétype, les traîtres et les néants. Bon, les gars, l'Ambazonie, les anglophones, je crois qu'ils jouent sur les mots, c'est une matrice, ils n'en veulent plus. Ils veulent plus de ce mariage-là avec des traîtres et des néants. Donc, ils veulent être des hommes, ils veulent être des Martin Luther King, ils veulent marcher, voilà, ils veulent être des Mohamed Ali, ils veulent aller à la conquête, pas du monde, mais déjà d'eux-mêmes, hein, de leur propre humanité. C'est pas possible, de leur propre indépendance qui a été volée et arrachée. Donc, le divorce est consommé, il faut en prendre son parti. C'est pas la peine d'aller retenir mes honoraires que j'ai fait à l'université ou parce que j'ai parlé moi aussi, je suis radié, ça c'est pas grave, hein, de toute façon, ici on est la diaspora, on n'est pas accepté. C'est pas la peine d'aller tout bloquer ou que les agents comptables fuient leur bureau parce que je vais arriver pour simplement demander où j'en suis. C'est pas la peine parce que si vous avez parlé, vous êtes sanctionné, c'est pas la peine. Mais que va-t-on dire? Que ce genre de débat, ce genre de livre, je signe, je dis bravo, parce que ça pose les vrais problèmes. Et pendant cette élection, il faut vraiment que ce livre soit au centre de la réflexion et que ça soit vraiment pas l'instrument de valeur, pas les talons, mais qu'on revienne à la réflexion fondamentale ou aux fondamentaux politiques avec ce livre. Et avec cela, on jugera les candidats à travers leurs propositions sur ce qu'ils vous proposent ici et là. Et vous verrez que l'épaisseur tombera d'elle-même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a très peu qui ont une épaisseur dans cette campagne. C'est vrai, je dis que Zemmour, oui. Pourquoi pas? Si le président est le président, mais je dis oui, pour Zemmour, pour sa culture, pour son épaisseur culturelle, oui. Là, aujourd'hui, il faut être objectif, il faut être honnête. Jean-Luc Mélenchon, mais bien sûr, 2 fois, 3 fois, 8 fois, 4 fois, 8, parce que lui, en plus de Zemmour, il a une expérience politique grosse comme ça, et un cœur gros comme ça. Et il est honnête et sincère, ce monsieur Zemmour. Moi, je ne suis pas sûr. Oui, il est aussi honnête et sincère dans ses positions. Vous jugerez à tout cela. Vous jugerez à tout cela. Et vraiment. Il faut acheter ce livre. Moi, je suis au Cameroun, je ne peux pas l'acheter, je n'ai même pas de carte bancaire, c'est très compliqué ici. Mais dès que je peux, si jamais j'arrive en France avant l'élection, je l'achète, je lirai les extraits. J'ai vu déjà les débats, c'est très, très intéressant. Le traître et le néant, vous ne pouvez pas échapper à cela, il faut le lire. Et ça va peut-être pour une fois nous faire une vraie élection présidentielle où on aura un vrai de vrai débat. Et comme ça, vous mettez les médias de côté parce que eux, ça va vous distraire, vous écouterez. Bien sûr, il faudra faire c'est le paradoxe médiatique, les débats dans les médias. Mais ne confondez pas le contenant et le contenu, comme on dit. Ne confondez pas cela, c'est très important. Des Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbok. Je vous dis bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt.